Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, alors on va commencer pour aujourd'hui. Donc j'aimerais introduire en lisant avec vous aujourd'hui dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, un passage qui me semble toujours d'actualité. Vous allez voir pourquoi. Et au verset 8, il est dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il y a des gens qui attendent le Messie. Beaucoup de gens attendent un Messie. Dans beaucoup de religions, un libérateur, un sauveur. Et nous avons quelque chose de particulier en tant que chrétiens. Nous sommes ceux qui sommes les plus proches du peuple d'Israël, des Juifs. Ils ont aussi la même Bible que nous, du moins la première partie en ce qui nous concerne. Et ils ont un certain nombre de promesses que nous accueillons aussi et que nous désirons aussi voir s'accomplir. Et avec beaucoup d'humour, un homme politique d'Israël avait dit il y a quelques années, il a dit « Nous croyons au même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous croyons aussi aux promesses de Dieu. Nous avons en commun une bonne partie de la Bible. » Et a dit « Et nous croyons au retour, à la venue du Messie. » Il a dit « Seulement lorsqu'il viendra, je lui poserai cette question. Avez-vous déjà été dans ce pays auparavant ?» Et donc, avec humour, il voulait dire que nous croyons à un retour de Jésus alors que la plupart des Juifs attendent la venue du Messie et qui n'identifient pas forcément en la personne de Jésus. Mais cette question est ce qui est important pour nous, c'est de nous situer. Le Fils de l'homme viendra, quel est notre état ? Sommes-nous en train de marcher dans la foi ? Êtes-vous en train de marcher dans la foi aujourd'hui ? Que la foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est maintenant. Ce n'est pas hier et ce n'est pas demain. Ce qui viendra demain, c'est dans le domaine de l'espérance. Et la foi, elle est au présent. Elle est toujours au présent. Elle ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas vivre sur votre foi de hier. Parce que la foi de hier, ça veut dire que hier, vous avez fait confiance à Dieu. Mais la question, c'est est-ce que aujourd'hui vous lui faites confiance ? Ne vous posez pas la question si vous ferez confiance demain, parce que ce n'est pas du domaine de la foi. La foi est aujourd'hui. Et donc, nous pouvons nous poser la question, où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu ? Dieu est un Dieu d'alliance. Une alliance, c'est comme dans un mariage. Le jour où on s'engage l'un par rapport à l'autre, on échange les alliances, on se promet un certain nombre de choses. Et vous savez que, hélas, et premièrement hélas pour les personnes qui brisent leurs alliances, c'est une façon dont ils se rendent malheureux. Il y a beaucoup de souffrance dans les séparations et les divorces. Des fois, c'est vrai que c'est une libération aussi. Il y a quelqu'un qui est violent ou abusif, Dieu ne nous oblige pas à vivre toute notre vie dans l'esclavage de cette personne. Et bien qu'il ne soit pas et que nous ne soyons pas pour le divorce, il y a des situations où je dirais c'est une sauvegarde. Par contre, Dieu est un Dieu d'alliance, et avec lui, nous pouvons avoir une relation permanente. Regardons une chose qui est importante au sujet de l'alliance dans 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, quels sont ceux parmi nous qui ont rejeté la parole de l'Éternel ? Levez la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, je suis désolé de vous le dire, que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de sa vie, a rejeté la parole de l'Éternel. Vous aviez un conseil dans la Bible, vous n'avez pas tenu compte. N'est-ce pas vrai? Au moins une fois, avouez-le. Je ne dis pas que vous êtes dans un état de rébellion permanente. Je ne dis pas que vous avez renié Jésus. Je ne dis pas que vous ne voulez rien savoir de Dieu. Mais quand vous lisez ça, que ce roi avait rejeté la parole de l'Éternel, je dis que dans notre quotidien, dans notre marche avec Dieu, il y a souvent, et je dirais même trop souvent, où nous rejetons la parole de l'Éternel. Vous voyez, ça semble des paroles dures, mais je ne suis pas méchant avec vous. J'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait que nous faisons une chose qui a de graves conséquences, des fois sans nous rendre compte à combien c'est important. Et nous pourrons découvrir ensemble que Dieu, notre Père, qui nous aime, il n'est pas là juste pour nous dire « Écoute, je t'aime, mon enfant, et continue comme ça. Je suis vraiment fier de toi et je suis content avec tout ce que tu fais. » Mais il nous est dit que celui qui aime ses enfants les châtie pour leur bien. Châtier ne veut pas dire leur taper dessus jusqu'à ce qu'ils aient un bras cassé ou qu'ils tombent d'inanition, mais ça veut dire corriger, essayer de redresser. Redresser. Qu'est-ce qu'on veut redresser? On veut redresser ce qui est courbé, rendre droit à nouveau quelque chose qui est tordu. Hein? On le dit dans le langage familier, que quelqu'un il est tordu. Eh bien, si je peux me permettre d'utiliser une expression familière, je dirais que des fois nous sommes des tordus. C'est la réalité. Vous savez, la Bible est très directe. Nous avons des fois une façon imagée de lire la parole de Dieu, mais quand, par exemple, la Bible dit dans le psaume, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et l'insensé, c'est celui qui vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans les proverbes, et ça va au-delà, ce mot insensé est repris comme une interpellation. Et par exemple, dans Proverbes 1, verset 22, il est dit « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ?» Donc, je ne sais pas, si je vous ai interpellé en disant « Hey, stupide !» Est-ce que vous répondriez présent ? Mais littéralement, c'est ce que la Bible fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Il nous est dit « La sagesse crie dans les rues ». Jésus est la sagesse personnifiée, la sagesse en personne. Elle crie et elle dit à certaines personnes, vous êtes des stupides, vous êtes des insensés, pas pour les insulter, mais pour les rendre attentifs à l'état dans lequel ils sont. Alors nous pouvons choisir de nous cacher, mettre la tête dans le sable, ou nous pouvons nous laisser interpeller. Vous savez, ça coûte, hein ? De dire « mince, j'étais stupide, je me suis comporté comme un idiot ». Qu'est-ce que ça demande ? Ça demande de s'humilier devant Dieu. Mais il y a une merveilleuse récompense. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un beau cadeau que Dieu puisse vous faire, c'est de vous montrer dans le miroir de sa parole tel que vous êtes vraiment. En général, ça fait peur. Ça choque. On n'est pas aussi bien qu'on le pense des fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en Christ, il fait de nous une nouvelle créature. Et alors, de nous qui n'étions pas aussi bien que nous pensions, nous devenons meilleurs que nous avons jamais rêvé. Quand on réalise que la Bible nous appelle des ambassadeurs pour Christ, je voudrais simplement vous rappeler qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est un fonctionnaire du rang le plus élevé qui soit. Les ambassadeurs, on envoie les meilleurs, les mieux formés, parce qu'ils représentent tout le pays. Et ils vivent non pas d'après le standard du pays dans lequel ils sont envoyés, mais ils vivent d'après le standard du pays qui les envoie. Et même, des fois, il arrive qu'il y a des pays, les gens n'ont pas grand-chose à manger, mais leurs ambassadeurs vivent comme des princes dans d'autres pays, parce que le pays cherche à se faire représenter. Maintenant, ne parlons pas des choses humaines, parlons de ce que nous sommes. Ambassadeurs pour Dieu, nous sommes censés vivre selon les lois du royaume de Dieu, ici. et pas dépendre des circonstances de ce que la terre et le système du monde doivent nous proposer. Alors, voulons-nous vivre selon les standards de Dieu? Alors, le standard de Dieu, il est là, il est décrit dans ce que l'Éternel trouve du plaisir dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est ce qui lui plaît. Et qu'est-ce que nous voyons dans la réalité? Nous voyons des gens qui font des sacrifices. Deux dimensions pour les sacrifices. Première dimension, un sacrifice, c'est payer quelque chose. Ça veut dire, j'ai pas envie de le faire, ça me coûte quelque chose, mais je fais un sacrifice. D'accord? C'est une des notions. Par le sacrifice, je paye. Par exemple, Jésus a, par son sacrifice, payé pour nous. D'accord? Il a payé toute notre dette. Mais combien de gens, voyons-nous, qui veulent eux-mêmes, encore une fois, payer ce que Jésus a déjà payé? C'est inutile. Mais ils passent toute leur vie à ça. Si le diable arrive à vous détourner de votre vue sur Jésus et payer vous-même votre sacrifice, c'est inutile et ce n'est pas ça qui vous fera gagner le ciel. Inutile. Ensuite, payer parce que nous ne voulons avoir de dette envers personne. C'est particulièrement fort dans la région où nous habitons. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien devoir à personne. Ils veulent pas qu'on puisse leur dire « tu me dois quoi que ce soit ». C'est un grand handicap pour eux à l'égard de Dieu, parce que nous lui devons tout. Nous lui devons la vie. Il nous est dit dans la Bible, c'est de lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous lui devons tout. Donc, il vaut mieux commencer par, non pas une mentalité de dépendance, d'esclave, mais il vaut mieux commencer à réaliser à quel point notre vie dépend de Dieu. Il nous est dit, si Dieu décidait de retirer le souffle de vie qui est en nous, on s'arrêterait tout de suite. Et il y a des gens qui avaient une carrière brillante, une bonne position, et leur vie s'est arrêtée. Je ne parle même pas d'accident ou de maladie. Il suffit simplement que Dieu retire son souffle de vie et tout s'arrête. Et toutes les choses que nous avions construites, des fois tout s'écroule. Et il y a une éternité à préparer. Deuxième notion pour le sacrifice, la vraie notion biblique, le sacrifice sert à nous rapprocher d'eux. Par le sacrifice de Jésus, nous avons pu être rapprochés de Dieu. Et on peut dire même le sacrifice de Jésus, par ce sacrifice, il s'est rapproché de nous. Il avait déjà revêtu l'humanité, et maintenant il a fait plus encore. Il s'est entièrement identifié jusqu'au péché. Donc, fort de cette connaissance, maintenant, obéissance ou sacrifice, maintenant, je vous demande d'examiner d'une façon pratique et de prendre cette décision devant Dieu, de dire, je veux regarder s'il y a des situations dans ma vie où j'ai cette attitude de vouloir payer à Dieu pour qu'il me laisse tranquille. Je fais quelque chose en disant, voilà, maintenant j'ai fait mon devoir religieux. Comme ça, je peux maintenant librement faire ce que je veux à côté. Et on a cette espèce de balance en disant, mais maintenant j'en ai assez fait pour lui. Ce message est valable pour quiconque. Il est valable pour les gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils essaient de payer leur salut. Il est valable aussi pour les chrétiens qui sont mal dans leur peau et malheureux parce qu'ils ne comprennent pas cette différence entre le sacrifice et l'obéissance. Et j'espère qu'à la fin de ce que j'aurais dit, vous aurez compris la différence. L'obéissance, c'est entendre la voix de Dieu. C'est quand je vois quelque chose dans la parole de Dieu, je fais un choix. Je décide. Le choix n'est pas vraiment de décider entre le bien et le mal. Ce n'est pas un choix. Vous ne pouvez pas choisir de faire le mal. Mais vous pouvez choisir de ne pas prendre au sérieux ce que Dieu vous a donné comme instruction. Regardons un exemple dans Marc, au chapitre 10. Une belle illustration d'un homme qui était prêt à des sacrifices. Au verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Je m'arrête juste là un instant. Restez dans Marc 10 et je vous lis simplement en parallèle Jean 6, 28 où des hommes sont venus auprès de Jésus et lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Comprenez la différence? La demande est toujours « qu'est-ce que je dois faire ?» Et la réponse est toujours « tu dois croire ». Or, tu ne peux pas croire si tu n'as pas d'abord entendu. Entendu, y compris être prêt à obéir. Êtes-vous prêt à obéir? C'est une question très importante. Êtes-vous prêt à obéir à Dieu et à sa voix quand il vous dit quelque chose? Je le dis par mon expérience, à la fois personnelle et l'expérience que j'ai vue chez beaucoup de personnes qui ont passé par notre église. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à obéir à la voix de Dieu. Ils veulent obéir à ce qui leur plaît et ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pourvu qu'ils puissent continuer la vie qu'ils désirent vivre. Et ça, c'est un drame pour eux et on va voir dans la suite. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous pouvons être impressionnés par ce dernier verset que je viens de lire. Aviez-vous imaginé que Jésus puisse affliger quelqu'un et que quelqu'un, après avoir rencontré Jésus, puisse être triste? D'habitude, nous sommes plutôt à nous dire, bon, nous ne sommes peut-être pas les chrétiens rayonnants que nous devrions être, mais si nous étions tout le temps joyeux, remplis du Saint-Esprit, pleins de dynamisme, alors c'est sûr, tout le monde aurait envie de venir et tout le monde se convertirait à Jésus. Mais ça, c'est quelque chose que nous imaginons, que nous rêvons. Mais la réalité, c'est que quand on vient à Jésus, qui, on peut dire, lui n'a jamais fait les erreurs que nous avons peut-être commises. Peut-être nous avons eu des paroles maladroites. Nous n'avons pas su conseiller les gens. Nous avons été trop durs. Certains sont partis affligés ou tristes parce que nous les avons affligés ou attristés. Mais du Seigneur, on ne peut pas dire qu'il l'était. Il n'a jamais péché, il s'est jamais trompé, il avait toujours la parole exactement celle qu'il fallait. Vous le croyez ça? Moi je le crois. Je crois que Jésus était 100% parfait, bon, tout ce que vous voulez. Et ici il nous est dit que cet homme est affligé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris la différence entre le sacrifice et l'obéissance. Il pensait que Jésus lui demandait un sacrifice. Mais en réalité le Seigneur lui demandait l'obéissance. Il croyait, si je suis Jésus, ça va me coûter. Je dois payer. Je dois renoncer à ma vie. Je dois maintenant vivre une vie de pauvreté. Mais en réalité, Jésus lui proposait de vivre une vie dynamique. Une vie d'aventure de la foi avec lui. C'est formidable. Cet homme qui connaissait les Écritures, parce que Jésus lui dit, tu connais les commandements. Et lui, il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis toujours. Donc, cet homme qui connaissait les Écritures aurait aussi pu connaître le proverbe qui dit que celui qui prête et qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Il y avait donc, dans la demande de Jésus, dans la parole de Dieu, il y avait un défi à l'obéissance. Et cette obéissance allait donner quoi? Pas la misère, et allait donner de l'abondance. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Abondance de vie, ça ne veut pas seulement dire abondance d'argent sur le compte en banque, ça veut dire abondance à tous égards. Et comment cette abondance va-t-elle se manifester? Elle va se manifester quand on obéit à la parole de Dieu. Et cette obéissance, c'est qu'il faut semer une semence pour pouvoir récolter quelque chose. Ce n'est pas autrement. C'est la loi des semailles et des récoltes. Cette loi des semailles et des récoltes est dans Genèse. Et vous savez qu'on ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas y toucher. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Jésus donc proposait à ce jeune homme de vivre une vie dynamique de foi et d'aventure avec lui. Mais il ne l'a pas compris.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.